Alors, François Gagnon, qui est chroniqueur économique au réseau Cogeco, se joint à nous tous les samedis matins. On a beaucoup parlé d'affaires, de données personnelles, de Desjardins, de Capital One ces dernières semaines. Puis là, on va se donner un petit peu de répit, mais on va parler d'une autre problématique, les finances et le couple.
Oui, tout à fait.
On a reçu beaucoup de messages. Les gens réagissent fort là-dessus.
J'ai reçu quelques courriels aussi.
Oui, bon. Alors, François, on va mettre la table. Si tu permets, il y a Serge qui est au bout du fil, qui va y aller avec un premier conseil. Oui, il y a beaucoup de questions. Bonjour, Serge.
Allez-y.
Oui, bonjour, Marie-Hélène. Bonjour à votre invité. En fait, c'est un petit truc maison. Lorsqu'on regarde les finances personnelles d'un couple, souvent, on est porté à faire ça le soir, lorsqu'on arrive du travail. Et il fait noir. Donc, mon truc, c'est ne faites jamais l'analyse de vos finances lorsqu'il fait noir parce qu'on ne voit que du noir. Alors, tentez de faire ça lorsqu'il fait clair dehors, lorsqu'il fait soleil. Ça a une influence plus positive. Puis, nécessairement, on voit des avenues beaucoup plus grandes. Et l'autre chose, c'est concentrons-nous sur les revenus et non sur les dépenses, car ils viennent tout seuls, les dépenses.
Ah, intéressant,
ça,
intéressant.
Ça, c'est clair.
Et Serge, quand il fait noir, on fait d'autres choses.
Vous avez complètement raison, madame. Alors, je voulais juste vous donner mon petit point de vue.
C'est bien gentil de nous avoir appelés. Merci beaucoup.
Mais si tu me permets, tu sais, il y a une chicane sur quatre, un couple sur quatre, une chicane au moins deux fois par mois concernant les finances personnelles. Puis je soupçonne, un peu comme le Doc Bayou, je pense que c'est toi qui me dis ça hier, que ça arrive jeudi, donc au moment de la journée
paye.
De la paye. Tu sais, quand t'es en amour, là, au début, là, tout va bien, hein, c'est le bonheur total, puis on pense pas à des choses bien terre-à-terre que les finances du couple. Il y a l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, là, qui a un beau site et qui donne des conseils. D'abord, on devrait discuter de ce qu'on possède et ce qu'on a comme passif, c'est-à-dire comme dette, les antécédents en matière de crédit, priorité financière de chacun, hein, parce que peut-être que moi, j'aimerais ça avoir un beau char, puis elle, c'est pas ça qu'elle veut, là, c'est plutôt des beaux meubles ou encore une belle cuisine. Mm. Les personnalités de chacun, quand c'est le temps de gérer de l'argent, parce qu'il y en a qui sont extrêmement nerveux à avoir, à gérer leur propre portefeuille, et aussi du rôle de chacun dans la gestion des finances. Alors, une fois que ça, c'est bien établi, on peut être capable de faire un budget. Ça, c'est la première affaire qu'il faut faire. Deuxièmement, faut s'entendre également, faut avoir une espèce de contrat. Quand tu te maries, tu n'as un contrat là, de tacite parce que la loi le prévoit. Mais quand t'es conjoint de fait, il faudrait peut-être aller voir le notaire. C'est bien plate là, de te dire, quand t'es en amour au début, là, dire ben là, faudrait asseoir ça sur du papier et aller voir le notaire puis dire ben voici en cas de séparation, qu'est-ce qui arrivera. Et l'autre chose également, le testament. Beaucoup de personnes n'ont pas de testament. Alors, quand il arrive, malheureusement, un décès impromptu dans le couple, même si t'es jeune, tu peux avoir beaucoup de problèmes financiers ensuite. Alors, donc, c'est extrêmement important de pouvoir se parler. Et comment on divise les dépenses? Comment on fait ça? Il y a trois façons de le faire. Moi, comme tantôt notre chroniqueur le disait, moi, je suis plus dans le pot commun. Là. Tu mets tout ça ensemble, puis tu mets toutes les dépenses ensemble.
Ça me surprend de toi, François, ça.
Non, du tout.
Le compte conjoint.
C'est une question de confiance. Mais le compte conjoint, il faut que tu aies confiance en l'autre personne. C'est ça, la part. C'est-à-dire que si tu as... parce que là, quand on parle de compte conjoint, ça veut dire que s'il arrive quelque chose, l'autre personne peut aller piger dedans pareil. Là. Alors donc, ça prendrait peut-être un compte à part qui est strictement personnel. L'autre chose également, c'est moitié-moitié. Ça, c'est pas gagnant-gagnant, surtout quand il y a une grande disparité dans les salaires de chacun. Puis là, je fais pas de discrimination, que ce soit la femme qui gagne plus que l'homme ou l'homme qui gagne plus que la femme. Si tu dépenses moitié-moitié pour la maison puis toutes les dépenses courantes, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va être à bout de souffle. C'est celui qui a le plus petit salaire.
Ben oui, oui.
Hein, ça, c'est clair. Donc, la façon la plus juste de le faire, ce serait très certainement au prorata du salaire. Si tu gagnes 100 000 puis que ta blonde t'en gagne 50, ben ça se peut bien que tu aies à 66 % des dépenses à assumer puis ta blonde 33 % et ça deviendra un peu plus juste parce que quand ce sera le temps des vacances, ben peut-être qu'elle aura autant d'argent que toi ou sera capable également d'économiser, peut-être pas autant que toi parce que tu gagnes beaucoup plus cher qu'elle, mais il y en a beaucoup de couples là, qui fonctionnent comme ça et habituellement, il n'y a pas trop de troubles.
François,
c'est la même chose dans les dépenses qu'il y a dans les revenus. venu.
J'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit que l'une des principales erreurs qui est faite en couple, c'est que souvent, il y en a un qui cache des dépenses à l'autre.
Ça, c'est clair. Mais ça, garde, compte conjoint, compte commun ou pas, là, ça arrive tout le temps. Ça, ça c'est clair. Puis on ne dit pas tout à l'autre. C'est extrêmement important, d'abord pour la confiance. Moi, c'est le point numéro un, d'avoir confiance en l'autre. Et s'il te cache des choses dans le domaine financier, ça se peut bien qu'il te cache d'autres choses ailleurs. Moi, c'est un principe de base. Puis ça, ça existe, puis c'est universel. Donc, c'est une espèce de contrat tacite qui existe entre deux personnes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de peut-être de le mettre sur papier. Et particulièrement pour les conjoints de fait. Parce que les conjoints de fait sont pas protégés. C'est pas comme mariés. Le Code civil ne prévoit pas, en cas de séparation, le partage du patrimoine familial en deux, 50-50, comme c'est prévu dans la loi. Alors, ça se peut bien que si tout est au nom du conjoint, d'un des deux conjoints, que la personne qui n'a pas mis son nom sur les biens meubles ou encore sur les meubles se retrouve gros gens comme devant. J'ai une petite question ici d'une personne qui a 67 ans, Manon, qui m'a écrit. Son conjoint en a 84, elle dit qu'il est en pleine forme. Un compte conjoint, elle a un compte personnel en plus, je m'occupe des deux comptes. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec le compte conjoint si mon conjoint décède avant moi? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire si on gèle le compte conjoint, les factures non payées et les pensions de mon conjoint? Bon, au moment du décès, la loi prévoit, le Code civil prévoit au Québec que normalement, le compte va être gelé. Petit secret ici, dites-les pas tout de suite à votre banque. Retirez les sous, puis transférez vos sous. Vous avez le contrôle sur les deux comptes de banque, transférez les sous. L'autre chose qui va arriver au moment du décès, c'est que la pension de la sécurité de vieillesse, parce que vous avez 65 ans tous les deux, la pension de la sécurité de vieillesse du monsieur va se terminer au moment du décès. Donc, il n'y a pas de dépôt qui va se faire par la suite. La régie des rentes va s'arrêter également, sauf qu'elle va être transformée, s'il y a lieu, en rente de conjoint survivant. Et comme madame a le 65 ans et plus, si elle a pleine pension de la régie des rentes, elle n'aura pas le droit à la rente du conjoint survivant. Alors donc, ça vient de régler un autre problème. Et la pension de l'employeur sera aussi transformée. Puis habituellement, pour la régie des rentes et la pension de l'employeur, au moment où vous avez la preuve qu'il y a eu décès, en moins d'un mois, c'est réglé. Donc, vous pouvez faire le transfert de vos dépôts directement dans votre compte. Et si vous avez un peu de sous d'avance, c'est pour ça que je dis, dites-les pas tout de suite à la banque. Je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas, là, mais je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Vous le transférez, puis après, une fois que c'est fait, vous allez à la banque et vous dites, garde mon mari est décédé ou ma conjointe est décédée.
Bon, François, il nous reste quelques minutes. Il y a Diane qui me parle de l'épargne. Comment on fait pour discuter d'économie en couple de ce qu'on doit mettre de côté? Est-ce qu'on y va au pourcentage du salaire de chacun? Comment on arrange ça?
Eh, Seigneur, ça, c'est une grosse question de discussion dans le couple. Ça dépend de chacun. Je sais qu'il y en a qui, dans des couples, il y en a toujours un qui est plus économe que l'autre, là. Moi, à l'époque, je n'étais pas économe, là, j'étais plutôt dépensier. J'ai appris au fil du temps qu'il fallait économiser, là. Comment je dirais bien ça, donc, Seigneur? C'est parce que je veux pas passer pour un paternaliste, là, mais il n'en demeure pas moins que, oui, il faut économiser pour ses vieux jours, faut se préparer, avoir... La première chose qu'il faut avoir, c'est au moins un coussin de 3 mois, là. Ça, c'est clair, au cas où il nous arriverait un coup dur pour les deux. Alors, si vous avez un coussin de 3 mois, l'équivalent de tout ce que vous avez à payer, votre automobile, votre maison, l'hypothèque, les assurances, les dépenses courantes, etc., si vous en avez pour 3 mois, mettez ça de côté, dans un CELI, par exemple, touchez-y pas. Et s'il arrive un coup dur, vous pourrez aller piger dedans. L'autre chose, c'est le REER, ou encore davantage pour ceux qui ont peut-être des salaires un peu moindres, le CELI pourrait peut-être être plus avantageux, ça dépend de chacun. Parlez-en à votre planificateur financier, à votre banque, ou encore à votre planificateur financier tout court, et il vous pourra vous donner des conseils. Moi, je dis 10% à peu près du salaire brut, là.
Mais tu sais, la clé, il y a un auditeur qui nous écrit, il est en couple depuis 34 ans, ils ont un compte conjoint depuis le début, le même compte. Oui. Il dit, la clé, c'est de se faire confiance, tu le disais en début de chronique.
C'est ça, exactement.
D'être honnête, de se fixer des objectifs, ton budget tantôt. Oui. Et la clé, c'est que personne ne tire sur le tapis. De son bord et de respecter l'autre, tout simplement, tu sais.
Ben voilà, quand c'est le temps d'acheter un véhicule, parlez-vous-en. Tu vas pas là tout seul. Moi, il n'est pas question d'aller acheter un réfrigérateur pain poil. Tu sais, j'y touche, oui, là, mais tu sais, c'est pas moi qui fais la cuisine de plus. C'est un instrument qui va appartenir fort probablement à madame. Alors donc, de ce côté-là,
je pense que c'est ça, ce commentaire-là.
Non. Ben, c'est pas un commentaire sexiste. C'est juste la question. C'est, tu sais, pour elle, c'est ça. C'est mon affaire, puis tu sais, moi, j'aimerais ça avoir mon mot à dire. Non, mais si tout le monde y met du sien, c'est ça que je veux dire, là. Tout le monde y met du sien, habituellement, il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a un qui commence à tirer sa couverte de l'autre un peu plus, puis tu commences à geler, habituellement, ça va pas bien.
Bon, hey, merci, François. T'es sauvé par la musique, mon beau François.
Ah, écoute, j'aurais pu me défendre facilement.
Moi, je le sais
pas
très bien, je suis pas inquiet.
Non, je suis pas, ça n'a aucun rapport.
OK, merci beaucoup, François. Bon bonne week-end. Fin de journée.